Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. À peine nommée Premier ministre britannique, Theresa May crée la surprise. Elle nomme Boris Johnson, l'un des artisans du Brexit aux affaires étrangères. Dans un instant, nous retrouverons Annabelle Grelier à Londres. L'impasse diplomatique entre l'OTAN et la Russie. Le Conseil de Bruxelles n'a rien donné en raison de la crise ukrainienne. Les explications de Bruno Cadenne. Le djihadiste Salah Abdeslam refuse d'être filmé 24 heures sur 24 dans la cellule. Le tribunal administratif de Versailles donnera sa réponse vendredi. Nous verrons cela avec Florence Turm. David Cameron est parti. Theresa May est devenue officiellement ce soir Premier ministre du Royaume-Uni. La deuxième femme à occuper ce poste après Margaret Thatcher. Et c'est une autre femme, la reine Elisabeth II, qui l'a chargée de former le nouveau gouvernement britannique dominé par les conservateurs. Theresa May n'a pas perdu de temps puisque l'on connaît déjà les noms de ses ministres. Avec une petite surprise, la nomination de Boris Johnson aux affaires étrangères. L'ancien maire de Londres était l'un des artisans de la campagne victorieuse en faveur du Brexit. Annabelle Grelier.
Philip Hammond a été nommé ministre des Finances. Il devient le numéro 2 du gouvernement. Soutien de la première heure de Theresa May dans la course à Downing Street, eurosceptique comme elle, mais qui avait choisi comme elle encore de défendre le maintien dans l'Union européenne derrière David Cameron. Il est ainsi récompensé. Le nouveau chancelier de l'échiquier succède ainsi à George Osborne qui quitte le gouvernement. George Osborne qui paie en quelque sorte son engagement total dans le camp du maintien dans l'Union européenne et s'est mis en garde alarmiste contre les conséquences économiques d'un Brexit. Autre annonce aussi habile qu'inattendue, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres et figure de proue de la campagne pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, il a été nommé ministre des Affaires étrangères. Son rôle dans les relations futures entre la Grande-Bretagne et le bloc communautaire européen devrait être limité dans la mesure où Theresa May a prévu de créer un nouveau ministère spécialement chargé de cette question. David Davis, un ancien secrétaire d'État à l'Europe qui a milité en faveur du Brexit, occupera ce poste. Une nomination qui aurait été approuvée par la reine, a déclaré le 10 Downing Street.
Annabelle Grelier à Londres. La France et l'Allemagne veulent profiter du départ du Royaume-Uni pour relancer l'Europe de la défense. À la veille du 14 juillet, François Hollande annonce ce soir une initiative française pour renforcer la coopération européenne en matière militaire. Le chef de l'État n'est pas rentré dans le détail de cette initiative. En tout cas, l'une des missions de cette Europe de la défense sera de faire bloc face à la Russie. Depuis la crise ukrainienne, les relations sont tendues entre Moscou et les Occidentaux et le prochain déploiement de 4000 soldats de l'OTAN dans les pays baltes ne contribue pas à l'apaisement des tensions. C'est dans ce contexte qu'un conseil OTAN-Russie s'est tenu aujourd'hui à Bruxelles. Pour la France et l'Allemagne, il s'agissait de reprendre langue avec les Russes. Eh bien, on peut le dire ce soir, Bruno Cadenne, c'est un échec. L'Ukraine continue à diviser les deux parties.
Ce conseil OTAN-Russie de Bruxelles devait renouer le dialogue quelques jours après le sommet de l'Alliance Atlantique à Varsovie. Dialogue il y a eu, mais de sourds. Aucune convergence de vues entre les deux parties et Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, de constater les divergences profondes et persistantes avec Moscou sur le dossier ukrainien. Pour l'OTAN, les actions de la Russie en Ukraine ont sapé toute la sécurité de la zone euro-atlantique. C'est d'ailleurs en réponse à la guerre en Ukraine que l'OTAN vient d'annoncer l'envoi en permanence en Pologne et dans les pays baltes de 4 bataillons de soldats. Un redéploiement qualifié par l'ambassadeur russe auprès de l'OTAN, Alexander Grouchko, de mesures non justifiées, excessives et contre-productives. Moscou, qui dénonce une atmosphère de guerre froide. Et comme pour confirmer l'absence de point d'accord, Jens Stoltenberg a une fois de plus qualifié d'illégale et illégitime l'annexion par la Russie de la Crimée. L'Allemagne et la France avaient souhaité cette réunion quelques jours après le sommet de Varsovie. C'est donc un échec. Paris et Berlin qui ne parviennent pas non plus à trouver une solution à la guerre dans le Donbass. Un entretien téléphonique Hollande-Merkel-Poutine n'a pu là aussi que constater que les accords de Minsk n'étaient toujours pas appliqués. Un conflit qui a déjà fait plus de 9500 morts.
Bruno Cadenne, merci. François Hollande annonce la fin de l'opération Sangaris en octobre prochain. Opération militaire française lancée en décembre 2013 en Centrafrique pour faire cesser les massacres intercommunautaires. Sangaris a compté jusqu'à 2000 soldats français. Il en reste aujourd'hui 350 dans le pays. Peut-on surveiller un djihadiste dans sa cellule 24 heures sur 24? C'est la question posée aujourd'hui au tribunal administratif de Versailles, saisi en référé par les avocats de Salah Abdeslam. Le dernier escapé des commandos du 13 novembre refuse d'être filmé toute la journée. Il s'agirait, selon maître Franck Berton, d'une atteinte aux droits fondamentaux de son client. Rappelons que Salah Abdeslam est détenu à l'isolement à la prison de Fleury-Mérogis, dans une cellule spécialement aménagée pour permettre une surveillance permanente. Florence Turm, vous avez assisté à l'audience aujourd'hui à Versailles.
C'est un débat de droit auquel se sont livrés le représentant du garde des Sceaux et l'avocat de Salah Abdeslam face aux trois juges du tribunal administratif de Versailles. Il n'existe aucune loi qui autorise ce système de vidéosurveillance, lance Franck Berton, une mesure contraire au respect de la vie privée. En revanche, l'avocat avait préféré mettre de côté un autre argument potentiel, l'atteinte à la dignité humaine, bien conscient d'un effet choquant sur l'opinion publique.
Les familles des victimes viennent nous dire quel droit a-t-il ? Il n'a aucun droit. Il a simplement celui de pourrir à l'éternité et à perpétuité en maison d'arrêt. Je peux entendre ce discours, sauf que la loi exige que ça soit le législateur qui prenne de telles mesures. Salah Abdeslam n'en déplaise à beaucoup de gens, et je peux l'entendre, il peut l'entendre, il peut le comprendre, à au moins le respect à ce droit, qui est un droit constitutionnel, qui est inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme et qui a été rappelé par la CNIL. Voilà, le débat est très simple, ça n'influe en rien sur la poursuite de l'information judiciaire, ça n'influe en rien sur les responsabilités qui seront les siennes à un moment donné et qui les explications qu'il fournira ou qu'il fournira pas.
Le tribunal administratif rendra sa décision demain et l'administration pénitentiaire s'y conformera, a d'ores et déjà déclaré Jean-Jacques Urvoas. Pour autant, le garde des Sceaux n'entend pas céder sur cette question de la vidéosurveillance. Si le tribunal considère l'arrêté ministériel sans fondement juridique satisfaisant, il se dit prêt à présenter une loi devant l'Assemblée nationale.
Florence Turm, merci. Voilà une polémique dont François Hollande se serait bien passé avant son intervention télévisée pour le 14 juillet. L'Élysée a confirmé aujourd'hui les informations du Canard enchaîné sur le coiffeur personnel du président, Olivier B. Il gagne 9 895 euros bruts par mois pour s'occuper exclusivement des cheveux du chef de l'État. Le député Les Républicains, Philippe Gosselin, parle d'un salaire choquant pour tous les artisans coiffeurs qui aimeraient gagner autant. Quant au frontiste Florian Philippot, il ironise sur Twitter sur le coiffeur gate et les ciseaux en or massif de François Hollande. Antoine Denecher, cette affaire est bien plus qu'une simple anecdote dans la vie politique française.
Tentons la comparaison avec Valéry Giscard d'Estaing. En arrivant à l'Élysée en 1974, le président Quadra se veut moderne, j'allais dire normal. Il joue de l'accordéon à la télé, se fait photographier en short pendant ses vacances. Mais en fin de mandat surgit le scandale des diamants offerts par l'empereur Bokassa qui abîme durablement l'image de VGE, désormais perçue comme un monarque éloigné de son peuple. En 2012, le candidat Hollande s'engage « Moi, président, je ferai en sorte » que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Et de fait, il diminue vraiment les dépenses de l'Élysée. Mais début 2014, survient un événement qui, dans l'imaginaire collectif, fleure bon l'ancien régime. Le président a une maîtresse qu'il visite régulièrement près de l'Élysée. Ensuite, autre affaire qui donne corps à l'idée de mœurs monarchiques à l'Élysée, comme sous VGE, le conseiller Aquilino Morel se fait cirer ses luxueuses chaussures dans un salon du palais présidentiel. Et voilà qu'aujourd'hui, le Canard enchaîné publie le contrat de ce coiffeur très bien payé par l'Élysée, la maîtresse, le cireur, le coiffeur. On se croirait revenu au temps des chroniques moqueuses du Canard sur la cour et la régence sous De Gaulle et Pompidou. Alors certes, l'Élysée assume, vous l'avez dit, et joue la transparence. Mais l'entourage de Nicolas Sarkozy a beau jeu aujourd'hui d'expliquer que l'ancien chef de l'État, lui, a toujours payé sa coiffeuse sur ses deniers personnels. Plus grave, selon le sondeur Jérôme Sainte-Marie, cela donne une illustration concrète à ce sentiment diffus dans l'opinion d'un François Hollande déconnecté, loin du président normal qu'il promettait d'être. Le léger regain de popularité actuelle pourrait s'en trouver rapidement affecté. Et puis demain, la question du fameux coiffeur pourrait d'ailleurs être posée dans l'interview du 14 juillet.
Antoine Denecher, merci. La météo pour le 14 juillet demain, temps toujours très instable sur les trois quarts du pays, du sud-ouest à la moitié nord. Mais le ciel se dégagera progressivement par l'ouest en cours de journée. Il continuera à faire très beau sur le quart sud-est avec un mistral et une tramontane qui souffleront en rafale jusqu'à 90 km/h. Les températures maximales restent inférieures aux normales saisonnières, 17 à 23 degrés sous les nuages, 24 à 29 degrés près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Emmanuel Faucillon.